C'est le moment de faire capoter vos papilles gustatives parce que oui, on reçoit Axel du restaurant 1668. Allô Axel, comment ça va?
Oui, Ariel, mon nom. Ariel.
Je dis Axel, hein?
Axel.
Je suis désolée.
Axel Rose.
Mais et pourtant...
Tu commences à ressembler un peu à Axel Rose.
C'est à cause du poids que tu dis ça?
Non, la barbe. Hey,
puis le pire, Ariel, ça fait longtemps qu'on se connaît. J'ai aucune idée. J'étais partie sur, dans ma tête. Je suis désolée.
Ça
je m'en excuse.
Écoute, non,
mais problème. De toute façon... c'est pas de ton nom qu'on va parler aujourd'hui.
Non, heureusement.
Heureusement, parce que sinon, c'est mal parti.
C'est une mal partie.
Hey, Ariel, tu viens de nous parler du restaurant, mais aussi des plats très savoureux qu'on va avoir prochainement.
Ouais, bien là, on voulait faire une chronique avec l'équipe pour démystifier un peu plusieurs sujets, parce qu'on des fois, on a des ingrédients qui sont particuliers, on a des approvisionnements qui sont particuliers, où est-ce qu'on prend nos choses, qu'est-ce qui est quoi, pour qu'est-ce qu'on remplace, beaucoup de comment on fait à la sauce québécoise ce que les gens font avec des ingrédients d'importation. Puis les petites chroniques vont servir à ça un peu. Donc, on voulait parler aujourd'hui, bien, en tout cas, nous ensemble, moi je suis tout seul de mon côté, mais j'aurais aimé ça parler de comment on arrive même en hiver, parce que on est sur la fin de l'hiver, on est sur les derniers légumes qui ont été ramassés au mois de novembre.
C'est comme dans le pire moment de l'année.
Là, on est comme dans le pire moment de l'année, mais comment on arrive justement à faire des menus de saison, entre guillemets, parce que de saison, on en reparlera justement. Comment on arrive à faire des plats de saison s'il n'y a rien qui est frais?
Mais il y a de plus en plus de trucs frais. Le monde ne savent pas.
Ben c'est parce qu'il y a beaucoup, là, justement, tombons dans le vif du sujet. Tu sais, nous, ce qui nous sauve beaucoup en tant que restaurant saisonnier de saison, c'est les légumes de garde. Okay? Fait que, tu sais, les légumes de garde, on connaît tous ça, là, c'est nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mangeaient ça pour survivre. Patates, navets, carottes...
Tout ce qui est racines.
Tout ce qui est légumes racines. Mais voilà aussi également les courges.
Ouais.
Les courges, c'est un super légume de garde. Il y a beaucoup de variétés. Il y en a qui sont plus fragiles, mais les courges qui sont super belles. On a des butternuts, nous autres, qui s'en viennent sur le prochain menu, qui viennent des potagers de la Loue à 50. Ça a été ramassé ou plus tard en novembre, ça, avant les derniers gels.
Ouais.
Ils sont encore super belles. Ça fait plaisir. C'est des légumes bio, plein de vitamines. Un autre avantage, les légumes de garde aussi. Puis là, je vais faire un parallèle aussi avec une méthode de conservation. Mais les légumes de garde, il y a beaucoup de gros légumes qui se bonifient en vieillissant, si on peut dire, parce qu'ils vont perdre une partie de leur eau. Donc oui, ils vont perdre un peu en texture croquante, mais ils vont se concentrer en saveur, se concentrer en goût. Fait que ça fait des légumes cuits qui sont plus savoureux, des potages, des sauces, des soupes, des accompagnements qui sont plus intenses en goût. Puis là aussi, on tombe sur une autre méthode de conservation qui est le clampage, qui est une méthode que peu de gens connaissent.
Le clampage?
Clampage. C'est une vieille méthode. Probablement que vous connaissez ça sous un autre nom. Mais le clampage, c'est en fait, c'est de juste d'enfouir les légumes de conservation dans du sel et du foin.
Ouais.
Du sable, excuse-moi. Du sable ou de la terre, là, mais en général du sable ou du foin. Puis ça permet vraiment d'avoir un contrôle sur l'humidité. Souvent, le légume se sent plus à l'aise, donc il faut commencer à germer. Puis en ayant germe aussi, bon, ben nous, on peut travailler le germe, comme les germes d'oignons, par exemple. Quand les oignons sont germés, souvent, les gens les jettent. Mais nous, ça nous fait l'équivalent d'un oignon vert, là, d'une échalote verte, comme on appelle.
Ouais.
Fait que ça, on peut utiliser ça dans le restaurant. Ensuite de ça, c'est sûr que les légumes clampés vont flétrir un peu plus, mais encore là, c'est augmenter la saveur, augmenter le goût. Autre méthode de conservation qu'on utilise, le canage, que tout le monde connaît.
Tout à fait.
Avec vinaigre ou au presto pour avoir le bon taux de pH puis la sécurité alimentaire. Tout ce qui est betterave marinée, tout le monde connaît ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui se mettent aussi en canage sans savoir. Tous les légumes racines, en fait, ça se canne super bien.
Tout à fait.
Toujours avec le bon taux d'acidité. Dernière méthode de conservation qu'on utilise, nous, au restaurant, c'est la lactofermentation. Donc, qu'est-ce que c'est ça, la lactofermentation? En fait, c'est une technique de conservation qui consiste à mettre un pourcentage de sel, soit dans une saumure, soit directement sur le fruit ou le légume. Puis là, le sel tue les mauvaises bactéries, mais les bactéries qui sont allotolérantes, donc résistantes au sel, eux vont survivre. Puis une bactérie qui est très résistante, c'est la bactérie justement de la lactofermentation, là, qui, elle, est résistante au sel, donc ne mourra pas sous l'effet du sel, mais en plus va transformer les sucres en acide. Donc, c'est une acétobactérie, donc lactofermentation, acétobactérie, qui va venir vinaigrer. Donc, naturellement, transformer le sucre, puis là, même dans un cocombe, là, je vous assure qu'il y a du sucre, là. Fait qu'on peut faire un cocombe vraiment avec juste de l'eau, du sel, puis on se fait un cornichon après 3 mois de lactofermentation. Fait que ça fait des super produits qui sont en plus super riches en probiotiques, puis en...
C'est ça. Tu peux faire ça avec une choucroute.
Choucroute, c'est lactofermenté. Le kimchi coréen, c'est lactofermenté. Oui. Nous autres, on en faisait du kimchi aussi quand c'était le temps des choux. Voilà. Fait que même radis, maintenant, il y a un terme pour ça. Le nom m'échappe en coréen, mais les Coréens font un kimchi exclusivement de radis ou de daikon.
OK. Oui.
Fait que ça, voilà. Ça peut, puis ça se garde, ça, ça mature, je dirais, ça fermente, lactoferment, aux alentours de 24-25 degrés, donc température pièce. Puis une fois que ça se fait mettre au frigidaire, il y a une petite fermentation qui va se faire, mais les bactéries sont presque arrêtées par le foie, donc on est bon pour garder ces produits-là. Si on les lactofermente, disons, novembre, aux dernières récoltes, on est bon facilement jusqu'en mars, avril, il n'y a pas de problème. Puis on va avoir quelque chose, un cornichon ou une marinade ou une choucroute qui est super intéressante.
Ça, tu fais ça, tout ça en restaurant.
On peut le faire en restaurant. Ça dépend toujours des arrivages. Je veux dire, on n'est pas encore rendu à l'étape où on récolte des castilles astronomiques, puis qu'on lactofermente, puis qu'on canne. Mais on commence à y penser de plus en plus là, pour avoir justement là, de la diversité au niveau des goûts.
Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça te donne des légumes de saison, comme tu mentionnes, puis ça joue sur le coût aussi, veux pas, parce que tu vas l'avoir planifié d'avance, parce que toi, tu veux l'avoir de saison, tu ne l'achèteras pas à l'épicerie.
C'est là que le nom de saison devient un peu bizarre, parce que en décembre, c'est pas la saison de la betterave. Ça pousse pas en décembre, mais elle a été récoltée au bon moment dans la saison. Fait que je pense qu'on peut encore parler d'un légume de saison.
Tout à fait.
Parce qu'il... T'sais, il va prolonger sa durée de vie par plusieurs méthodes de conservation, mais on est encore dans la saison. Je veux dire, même si c'est pas récolté frais, c'est frais quand même.
C'est ça.
Donc, c'est là-dedans qu'on travaille. Autre avancement technologique maintenant qu'on a, c'est les serres.
Oui.
Donc, les serres, c'est un partenaire maintenant pour les gens en restauration qui veulent faire 100% québécois. Fruits de la Colline à Sainte-Marie ou les serres de Merce à Lévis ou à Savoura plus loin dans le Québec. Problème avec les serres, c'est que c'est pas une panacée, c'est pas un remède pour toutes les productions maraîchères.
Parce qu'on a le coût de chauffage aussi qui est astronomique.
C'est le coût de chauffage qui est astronomique, mais on a l'ensoleillement par jour. Parce que même s'il y a du chauffage, un poivron, ça prend X jours de soleil avant d'arriver à maturité. Puis quand les journées sont très courtes, bien, la production est ralentie. Fait que c'est un bon échappatoire, c'est une bonne façon de se procurer des légumes frais. Mais ça peut devenir compliqué des fois. Il peut y avoir une halte au niveau de la production de poivrons, de tomates. T'sais, je sais qu'il y a des serres là, qui ont eu des problèmes cet hiver parce qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de soleil. Fait que oui, la serre est chaude, mais il n'y a pas d'ensoleillement, donc pas de photosynthèse, donc pas de production de légumes.
Mais c'est pour ça qu'il faut plus se concentrer aussi là, au niveau des épinards, parce que maintenant, il y a des serres beaucoup au Québec qui vont avoir les épinards parce que c'est plus facile justement à aller chercher.
Les épinards, même les laitues.
Oui, la coriandre.
Gen V, là, Gen V qui fait de la... de la culture
hydroponique.
Voilà, merci. Ça, c'est super.
Oui,
ça fonctionne très bien. Je pense aussi aux légumes de cave, là, entre guillemets, les endives. Ça va poser l'ensoleillement. Champignons aussi. Maintenant, on est gros sur la culture de champignons au Québec, surtout dans le coin de l'Estrie, où ils font de la culture dans des hangars.
Okay.
Défaut d'autres termes, là. Sur de la sciure de bois avec...
Une lasagne.
Ben, ça fait de la zinc si tu le fais sur bûche, mais si tu le fais sur sciure de bois, ça fait comme vraiment comme des rangs de terre, mais c'est de la sciure. Puis il inocule là, la sporée de champignons, puis ça pousse vraiment. Fait qu'il peut faire de la pleurote, il peut faire du shiitake, il peut faire. Fait que ça aussi, c'est une autre super façon d'avoir des beaux légumes frais du Québec en tout temps à l'année.
Donc, ton défi, puis ton concept de restaurant au 1668 d'être à l'année en production québécoise, tu le réussis par cette technique-là?
Sans problème. Sans problème, ça va super bien, puis on perd pas de qualité. Ben ça peut arriver qu'on... Ben, on manque de rien, non. Ça peut arriver qu'on doive se retourner vers un autre produit. Par exemple, je pense au poivron. Bon, mais le poivron, il y a un problème sur le poivron. Qu'est-ce qu'on remplace le poivron? Est-ce qu'on change le plat? Est-ce qu'on change la carte? Souvent, on va savoir un peu d'avance.
Tu t'entêtes à ne pas aller chercher le poivron du Mexique, par exemple?
Non, jamais. Parce que ça défait un peu la mission. C'est parce que si on se dit on se permet de prendre un produit d'importation, la limite arrête tout. T'sais, après ça, 1, 2, 3, 4, 10. Fait qu'on se dit, garde aucun produit d'importation. Comme ça, on reste dans le pourcent dans le Québec. Puis on se débrouille avec ce qu'on a. Puis
tu le réussis très bien.
Ça va super bien jusqu'à date. Puis on perd pas de qualité gustative. C'est ça l'important. C'est de pas aller chercher au Québec juste pour aller chercher au Québec. C'est d'aller chercher au Québec.
Diminuer en qualité.
On ne diminue pas en qualité. Bien au contraire, un poivron qui vient de Lévis à une heure de route, c'est toujours meilleur, plus frais, plus croquant qu'un poivron qui vient du Mexique après 7-8 heures de camion, même si c'est un camion réfrigéré. Dernière méthode de conservation qu'on va parler un peu plus rapidement, ben c'est la déshydratation. Écoutez, il n'y a pas plus compliqué que ça. Maintenant aussi, il y a la lyophilisation, donc la déshydratation par le froid. Ça prend une machine spéciale qui est un lyophilisateur où on va placer un légume qui est surgelé ou un fruit qui est surgelé. Puis en fait, ça fait une ambiance sous pression, puis l'eau s'évapore plus vite à haute pression. Donc, au lieu d'avoir une fraise qui a été comme séchée par la chaleur, on va avoir une fraise qui a été séchée par évaporation sous haute pression. Donc, ça fait un fruit que t'as pas l'impression qu'il a cuit, en fait. C'est comme si t'avais un fruit cru, mais sec. Ça a une texture un peu plus... il appelle ça du freeze-drying en anglais.
Okay.
Ça fait une texture un peu plus éponge et plus aérien. Ça ressemble presque à de la meringue française en fruits ou en légumes. Ça réhydrate super bien aussi. Fait qu'on peut lyophiliser, faire tremper des fraises. Puis mettons, par exemple, faire un super cocktail avec des fraises infusées dans de la vodka. On regarde la vodka pour le cocktail, puis on met la petite fraise infusée à la vodka sur le cocktail en finition. C'est des trucs qu'on fait régulièrement sur le restaurant aussi.
Ça se fait-tu? Je sais qu'on le fait pour la viande, mais le sous-vide, on peut-tu mettre des fruits et légumes sous-vide?
Oui, mais ça va être des légumes qui vont être cuits en majorité, parce que les légumes crus gagnent pas vraiment à être sous-vide, parce que là, l'oxygène n'aura pas vraiment d'effet. C'est sur les légumes cuits. Mais tu sais, un légume cuit, même une viande cuite, ça va rajouter peut-être 5 à 10 jours maximum de conservation.
Pas sans plus. Okay.
On peut pas faire un 3 mois de conservation avec un légume sous-vide plus. C'est plus pour une conservation dans l'immédiat. Mais ça fonctionne super bien. Ça nous évite de faire beaucoup de gaspillage. Nous, on l'utilise régulièrement, que ce soit pour la cuisson, pour la conservation, sous-vide au restaurant. Mais c'est moins une technique de conservation sur le long terme. Je ne pourrais pas sous-vider un asperge au mois de juillet puis l'utiliser au mois de décembre. Ça ne l'aiderait pas plus qu'il faut. On serait mis la lacto-fermentée de faire un bon pickle d'asperge à la place.
Ouais, ça, c'est bon.
Ouais.
Un petit bledé, là, en plus. Oh là là.
Puis ensuite, dernière façon qu'on se procure toujours des aliments. Donc, on est sur la pisciculture.
Oui.
Donc, pisciculture, maintenant, qui est de plus en plus répandue au Québec, que ce soit la culture des moules, plus vers les maritimes, que ce soit la culture des truites et autres poissons. C'est quelque chose qui fonctionne super bien, c'est quelque chose qui se fait à l'année. Fait que nous, parce que souvent, là, quand les glaces prennent, là, les bateaux sortent plus. Donc, on n'a plus de poissons, entre guillemets, frais en pêche. C'est toujours le poisson.
Qui viennent du Québec encore, on s'entend.
Toujours dans les poissons du Québec. Là, on parle toujours dans une optique du restaurant 1668. 100% québécois, c'est sûr qu'il y a des produits d'importation, il y en a des frais là, à l'année, là. Mm-hmm. Mais prenez-moi pas. Mais nous, pour notre objectif de faire 100% Québec, on va aller plus vers la pisciculture que vers le poisson congelé, mettons, si c'est possible. Parce que oui, on peut prendre un beau poisson congelé, une truite, par exemple, congelée de la Gaspésie, c'est correct. Mais si on l'a fraîche, cette même truite-là, qui est par le même producteur, mais qui est fraîche, c'est sûr qu'on saute sur le produit frais.
Bien, je comprends bien. Puis là, écoute, on jase vite de même. Là, moi, si ça vous a pas donné envie d'aller faire un test, là, je sais pas qu'est-ce qu'il va vous donner. Parce que moi, je t'avoue que c'est dans les trucs que j'adore, c'est vraiment votre mission. On est au Québec, voir toutes les façons de faire. Puis en même temps, là, ben, t'es en train d'éduquer des gens qui savent même pas qu'on peut tout consommer ça au Québec. Puis ça, je trouve ça...
À l'année.
Bien, c'est
à l'année.
C'est une manière ancestrale de se nourrir. Je vous dis, nos arrière-grands-parents avaient pas la fraise du Mexique qui arrivait à l'année. Puis ça... De un, ça permet de profiter des aliments quand ils sont en valeur meilleure. C'est-à-dire la saison de la... Là, la fraise, les fraises sont bonnes à Sainte-Marie. Là. Je dirais pas le contraire. Mais la saison de la fraise, de la mûre, de la framboise, quand ils sortent du champ, c'est le temps d'en profiter, de se gaver. Puis quand c'est fini, on passe à autre chose.
C'est ça.
Puis il y a des choses qui sont meilleures, par contre. Mettons dans le sec, comme les légumineuses, on peut les avoir fraîches. Mais tu sais, les légumineuses, la soupe aux pois, par exemple, on en mange depuis toujours. Mais tu sais, c'est une belle façon de consommer un produit d'ici parce qu'on en produit. Hein, la soupe aux pois, là, c'est pas nouveau là, que le pois jaune vient du Québec. Là,
c'est une belle méthode ancestrale, mais la beauté, c'est que Ariel a un cerveau de malade pour être capable de vous ramener tout ça, ces beaux légumes-là, puis pas faire les recettes, pas juste faire des recettes dans ta tête. Toi, tu vas tout revamper tout ça.
Ben,
et on redécouvre
tout
ça.
Justement, fait que là, on en passe, on aura le temps rapidement. La semaine de l'érable qui a été lancée, annoncée officiellement aujourd'hui par Destination Beauce. Donc, on participe encore cette année à la semaine de l'érable. Nous, on a fait une assiette exclusive, c'est-à-dire qu'elle est disponible seulement pour la semaine de l'érable. C'est un plat qui a été créé de toutes pièces pour la semaine de l'érable.
Même si tu gagnes à la fin du vote, parce qu'on invite les gens à voter, on en reparlera tantôt de Marie de la semaine de l'érable.
Oui,
là,
tout
mais
à fait.
Si on vote pour ton plat, puis que c'est ton plat qui gagne, c'est final bâton, tu ramèneras pas l'assiette.
Probablement pas. Les chances sont très faibles. D'un, nous, on utilise cette année, on travaille avec le domaine des Kunkun à Beauceville, donc qui est un élevage de cochons Kunkun. C'est quoi le cochon Kunkun? C'est juste une race qui est originaire de Nouvelle-Zélande, mais qui grandit, qui s'élève super bien au Québec. Petit cochon, donc moins gros qu'un cochon de culture traditionnelle. Élevage plus long, donc c'est moins rentable pour les filles, mais c'est un cochon qui donne une qualité de viande vraiment exceptionnelle, super persillé, ultra tendre. C'est des plus petits morceaux, fait que nous, ça se prête super bien avec ça.
Tu me disais tantôt, tu as fait une comparaison bœuf wagyu.
C'est un peu le bœuf wagyu du cochon parce qu'il y a beaucoup de gras intramusculaire. Puis ça, le gras intramusculaire, c'est pas un gras qui est mauvais pour la santé. Là, ce qu'on aime pas, nous autres, c'est le gros gras jaune à l'extérieur d'un morceau, ben, ou blanc, là. La plus grosse couche de graisse externe, ça, c'est moins bon, mais le gras, le persillage, c'est un gras qui est meilleur pour la santé. C'est un gras qui aussi rajoute beaucoup de jutosité, beaucoup de saveur, beaucoup de tendreté à une pièce. Fait que le Kunkun, c'est un peu le wagyu du cochon. Nous, on l'utilise de deux façons dans notre assiette. C'est-à-dire qu'on fait une saucisse... Ben, en fait, les filles font une saucisse de Kunkun avec pépites d'érable à l'intérieur. On fait l'épaule de cochon qui est braisée dans du réduit d'érable. Donc, gin, eau d'érable, gin très carré, or à l'érable. Après ça, on fait un bonbon de... On vient laquer avec la sauce de cuisson. Après ça, on fait un bonbon de bacon enrobé de sirop d'érable. Donc, sirop d'érable des fermes Stafford à Saint-Georges qui nous fournit depuis le début de l'ouverture du restaurant. On fait une petite mousse donc de pois jaune qui vient de le Pré-Rieur. à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, donc élevage, ben, culture, je devrais dire, de pois jaunes en bio. Fait que c'est un peu un heureux mélange entre la soupe au pois traditionnelle qu'on connaît avec le jambon ou le lard ou le bacon, puis la mousse de pois, puis un plat français qui s'appelle le cassoulet, qui est vraiment une orgie de viande de toutes sortes sur des haricots braisés. Fait qu'on vient jouer entre les deux. Fait que trois morceaux de viande pour vraiment chercher le côté carnassier, carnivore des gens, la mousse qui rappelle la soupe au pois d'antan. Puis on fermite ça avec un fleur de sel, petit crumble de cochonnet sur le dessus, puis sucre d'érable.
Et on parle pas d'une assiette à 50 $ là.
Non, c'est 25 $
25, voilà. Fait qu'à venir déguster, c'est une belle portion aussi, là. Fait, soyez pas gênés, là. C'est une belle portion qu'il faut vous rassasier. Bon.
Là, si les gens, ils m'ont pas cru, là, qu'ils aient réinventé tout, là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour vous croyer. Puis mine de rien, ceux qui veulent aller déguster cette bonne assiette-là, c'est disponible pour souper seulement du mercredi au samedi. Merci, Ariel. On se revoit prochainement pour une autre chronique.
Ça m'a fait super plaisir. Merci.
Salut, bye.
Bye-bye.